L'histoire est comme un clin d'œil furtif, aux conséquences parfois inattendues. Clin d'œil à l'histoire,
une émission présentée par Raphaël
et Ben le samedi matin à 11h
sur Radio Bartas 107 FM. Deuxième épisode, l'indépendance américaine. La guerre d'indépendance américaine de 1775 à 1783 est le premier grand conflit qui se termina par la victoire d'un peuple prônant la liberté et une république moderne. Qui aurait pu penser que les États-Unis d'Amérique deviendraient la plus grande puissance mondiale? Comment tout ça a commencé? Quel a été le rôle de la France et comment tout ça s'est articulé pour que le 4 juillet 1776, on en arrive à la déclaration d'indépendance? Mais le chemin sera encore long, très long, jusqu'à ce que la reconnaissance du monde de celle-ci ne soit effective.
Tous les hommes sont créés égaux, ils sont doués par leur créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. En conséquence, nous, les représentants des États-Unis d'Amérique, assemblés en congrès général, publions et déclarons que ces colonies unies sont et ont le droit d'être des États libres et indépendants.
Extrait de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, le 4 juillet 1776. Raphaël, pour commencer, contextualisons ce qui deviendra les États-Unis d'Amérique sont, avant la déclaration d'indépendance et la guerre de 8 ans qui suivra, 13 territoires de la côte Est, colonie anglaise.
Oui, en effet, c'est leur statut. Mais il faut remonter un petit peu plus avant pour comprendre comment se sont constituées ces 13 colonies. Les Européens mettent le pied, on va dire, sur ces territoires d'Amérique du Nord dès le XVIIe siècle, où on a surtout des Néerlandais et des Suédois qui vont y établir les premières colonies d'exploitation. Ces colonies-là sont essentiellement exploitées par la Compagnie des Indes occidentales néerlandaise à partir de 1621. Les premiers représentants, les premiers arrivants, européens, sont d'ailleurs des protestants originaires des Pays-Bas qui viennent. On peut citer par exemple la famille emblématique qui est les Roosevelt, qui s'installe à cette époque-là. On y trouve quelques villes qui sont entourées de palissades, d'où le nom de certains lieux-dits comme Wall Street. On a la principale colonie néerlandaise se constitue autour de la presqu'île de Manhattan, qui est alors baptisée New Amsterdam à cette époque-là. Et à partir de 1664, nous avons l'Angleterre qui veut, elle aussi, partager un petit peu le gâteau et s'attaque aux possessions néerlandaises. Le roi d'Angleterre, Charles II, envoie le duc d'York, essayer d'établir un comptoir britannique, et c'est la prise de la Nouvelle-Amsterdam qui devient donc New York. Et tout au long du XVIIe siècle, en fait, déjà, on remarque que les Anglais sont installés en Amérique du Nord. De nombreuses colonies sont constituées dès 1606, avec la Virginie qui est créée notamment, et vous allez avoir peu à peu les 13 colonies qui vont être constituées. On peut citer juste le colon William Penn qui va créer l'état de Pennsylvanie, la colonie pardon, de Pennsylvanie, qui va être elle aussi constituée autour de la ville de Philadelphie, qui est alors la plus grande ville des colonies anglaises. Elle compte à peu près 30 000 habitants au XVIIe siècle. Sinon, juste dire encore que ces 13 colonies sont totalement indépendantes les unes des autres. Elles ne communiquent pas, elles n'ont pas de politique commune. Elles échangent juste des productions agricoles avec la métropole britannique.
Alors, tu l'as abordé, mais qu'on comprenne bien, qui sont ceux qu'on a coutume d'appeler les colons américains?
Alors, ces colons américains, d'origine britannique néerlandaise, sont avant tout des entrepreneurs. Parmi eux, on a essentiellement aussi des protestants. On peut citer les Pilgrim Fathers, qui sont des puritains qui vont s'installer, dont le motif n'est pas uniquement économique, mais aussi religieux. Le problème, c'est que ces colons ne veulent pas travailler eux-mêmes avec leurs mains. Donc on a besoin de main-d'œuvre, ce qui va être fourni par la métropole britannique, qui va envoyer dans son premier temps, par exemple, les convicts, c'est-à-dire des condamnés de droit commun, qui vont être expédiés là-bas pour travailler. On peut aussi trouver d'ailleurs des travailleurs sans contrat. Les indigènes, en revanche, ne sont pas satisfaisants parce que ce sont des nomades et n'ont pas l'habitude de rendre un travail régulier. Il faut donc davantage de main-d'œuvre. Et où est-ce qu'on va trouver cette main-d'œuvre ? On va la trouver en Afrique. Et en 1619, le premier contingent d'Afrique débarque en Virginie. Ces hommes sont d'abord libres, mais rapidement ils vont être réduits en esclavage dès 1621 par une loi, tout simplement, qui le légalise. Fin du XVIIe siècle, on compte à peu près 12 000 esclaves en Virginie.
Alors, à partir de 1764, le Parlement anglais va lui commencer à voter, entre autres, des taxes sur énormément de produits. Et c'est d'ailleurs ce qui va tout doucement mettre le feu aux poudres.
Oui, alors, les 13 colonies ont très peu de contact avec la métropole britannique jusqu'en 1764, où nous avons le Sugar Act, une taxe qui est établie sur le sucre. Parce que la Grande-Bretagne a besoin d'argent, il faut rembourser la guerre de 7 ans qui a coûté très cher. Donc on augmente les droits sur la mélasse et en interdiction les importations des vins et des rhums français, parce que la France était alors l'ennemi britannique. Tout ça est fait sans demander l'avis des colons, et c'est contraire d'ailleurs au Bill of Rights de 1689, qui est en fait l'établissement de la Constitution britannique. On a en fait ce Sugar Act, qui est aussi une volonté de centraliser le pouvoir au cœur de la métropole, et nombre de colons sont venus justement aux États-Unis pour fuir la tyrannie britannique. Donc voir une taxe ainsi imposée au-delà de l'Atlantique pose un réel problème. Vous avez en plus, le Sugar Act va être retiré sous la pression des colons, mais d'autres taxes vont être créées, par exemple une taxe sur les timbres.
Et le 16 décembre 1773, c'est ce que l'histoire retient comme appelé le Boston Tea Party.
Oui, alors c'est un des événements fondamentaux justement qui va signifier, on va dire, une rupture totale entre les colonies américaines et la métropole britannique. En 1773, une loi sur le thé, donc le Tea Act, est proclamée. On donne en fait à la Compagnie des Indes Orientales, qui est alors en très grande difficulté en Asie, la possibilité de vendre ses stocks de thé, qui sont absolument colossaux, au marché américain, et ce sans payer de taxes. Le problème, c'est que les colonies vont percevoir ça très mal parce que vous avez un favoritisme pour la Compagnie des Indes Orientales qui est clairement affiché ici. C'est aussi une forme d'intervention britannique dans les affaires des colonies. Et enfin, c'est une concurrence déloyale pour les entrepreneurs locaux, les entrepreneurs américains, qui sont ruinés par le privilège qui est accordé ainsi à la Compagnie des Indes Orientales. C'est une atteinte à la propriété privée. Or, on sait que dans le droit britannique, la propriété privée est quelque chose de sacré. Donc, fin novembre 1773, nous avons les premiers navires de la colonie des Indes qui entrent dans les ports américains. Vous avez notamment 3 navires chargés de thé qui rentrent dans le port de Boston. Et il est demandé expressément au gouverneur qui est présent là-bas de renvoyer ses bateaux sans décharger les marchandises. 2 bateaux repartent de Boston. Un troisième reste, et le 16 décembre 1773, une centaine de Bostoniens déguisés en Amérindiens montent dans le bateau et jettent toute la cargaison par-dessus bord. C'est un véritable défi à l'autorité britannique. Le port de Boston est fermé, et en 1774, les 13 colonies font tout bloc contre Londres. Les Américains créent des milices privées et constituent même des arsenaux clandestins. Et en avril 1775, la situation dégénère lors d'un affrontement direct à Lexington, près de Boston. C'est une escarmouche qui fait à peu près 170 morts, mais c'est vraiment le premier acte de guerre.
Le feu est allumé.
Auriez-vous l'obligeance de me dire, monsieur Howard, pourquoi je devrais échanger un tyran qui règne à 1000 lieues d'ici contre 1000 tyrans qui règnent à 1 lieue d'ici ? Un corps constitué d'élus peut bafouer nos droits avec autant d'aisance qu'un roi.
Capitaine Martin, je vous prenais pour un patriote.
Si vous appelez patriote celui qui refuse d'être taxé sans être représenté, alors je le suis, en effet. Les colonies américaines doivent-elles se gouverner en toute indépendance ? Je crois qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent. Mais est-ce que je serai moi-même volontaire dans une guerre contre l'Angleterre ? Je vous le dis tout net, ma réponse est non. Il y a une alternative à la guerre. C'est d'aller directement voir le roi et de plaider notre cause.
Nous avons déjà essayé.
Eh bien, il faut essayer encore et encore si nécessaire pour éviter une guerre.
Benjamin, j'étais à Bunker Hill. Les Britanniques nous ont attaqués 3 fois. Nous avons tué plus de 700 de leurs hommes à bout portant et malgré ça, ils ont gagné du terrain. Voilà la mesure de leur détermination. Si par principe vous croyez à l'indépendance, la guerre est la seule solution.
Nous en sommes là.
Extrait du film Le Patriote avec Mel Gibson. Y a beaucoup de choses à dire, mais si on prend les informations telles qu'elles existent dans l'histoire, le 4 juillet 1776, la déclaration d'indépendance est votée. Alors Raphaël, avec qui ça se passe et où ça se passe ?
Alors, l'indépendance, déjà, est une idée qui est tout à fait neuve. Elle date justement de 1775, et c'est ce qu'on entend d'ailleurs dans l'extrait, hein, Mel Gibson, qui affirme ça comme étant l'idée du siècle, quelque part. Mais bon, ça vient pas de lui, en fait. C'est plutôt, pour origine, on pourrait considérer un pamphlet de Thomas Paine, qui s'appelle « Sens commun », et qui imagine une république en dénonçant la tyrannie de la monarchie britannique de George III. Et résultat, cette idée va faire son chemin, et rapidement, en fait, précipitamment, finalement, de façon unilatérale, on décide, les assemblées des 13 colonies décident la création d'un comité de 5 membres pour rédiger la déclaration d'indépendance. Alors, ce comité est composé de Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, Robert Livingston et Roger Sherman. Et ceux-ci écrivent The Unanimous Declaration of the 13th United States of America. Et elle est adoptée le 4 juillet 1776 à Philadelphie. Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107 FM. En 1776, donc, les 13 colonies de la côte est américaine se déclarent indépendantes, certes, mais le chemin est encore long, très long, pour que l'indépendance soit effective. S'en suivront 8 ans de combats acharnés, dans lesquels nous allons voir que la France va jouer un rôle très important. Raphaël, impossible pour l'Angleterre de reconnaître l'indépendance américaine.
Non, absolument pas. L'Angleterre est complètement enlisée dans le conflit. Elle est dirigée par une majorité conservatrice bornée, au gouvernement qui refuse finalement d'écorner l'image de cet empire colonial britannique, qui est encore à ses prémices, qui est encore à sa construction. On n'est pas encore à l'apogée de l'empire britannique, mais les 13 colonies américaines sont un très beau morceau qu'il faut absolument conserver. De plus, le roi George III est complètement dépassé par les événements, et on dira de lui d'ailleurs qu'il est plus bête que méchant. Enfin, l'Angleterre est mal préparée à ce conflit lointain, d'autant que la France, grâce à l'intervention de Benjamin Franklin, qui se rend souvent en Europe, parvient à les convaincre, et un traité d'amitié franco-américain est même signé en 1778. Donc si en plus l'ennemi français s'additionne au conflit, l'Angleterre ne peut absolument pas reculer.
On va y revenir sur le rôle de la France. L'Angleterre, la première année, remporte beaucoup de victoires, mais... tout va changer, comme tu viens de le dire, puisque des volontaires européens vont rejoindre les Patriotes et un certain Lafayette. Alors, ce nom, on le connaît évidemment, mais qui est-il concrètement ?
Alors, Lafayette, c'est un marquis et général français qui est tout jeune au moment des événements, puisqu'il est né en 1757. Et donc, à 20 ans, il s'enthousiasme tout simplement pour la cause des colons américains et part donc, en le décidant de lui-même, puisque Louis XVI n'était pas forcément d'accord dans un premier temps d'envoyer l'armée française intervenir au-delà de l'Atlantique. Et il part seul, en équipant sur ses propres frais, une frégate et pour se rendre à Philadelphie. Et de là, il va avoir plusieurs grands faits d'armes, notamment lors de la bataille de Monmouth, par exemple, qui va en lui donner l'auréolée d'une gloire tout à fait, presque j'allais dire, internationale, puisque même lorsqu'il rentre en France en 1779, il y est reçu un héros, et très facilement, il va obtenir le soutien, cette fois-ci officiel, de la France aux insurgés, et il sera l'un des grands artisans de la bataille de Yorktown, qui sera une victoire pour les insurgés, et pour le même coup, pour les Français en 1781.
Quel est, l'intérêt pour la France de rejoindre ce conflit ?
Alors, on peut se poser la question légitimement, puisque c'est vrai que la France va dépenser une fortune pour venir en aide aux insurgés américains. C'est plutôt un esprit de revanche qui guide en fait les Français à ce moment-là. Ceux-ci ont en effet subi un revers lors de la guerre de 7 ans qui se déroula entre 1756 et 1763. Cette guerre, en fait, a eu des conséquences dramatiques pour la France, puisque... elle a pour conclusion le traité de Paris et l'abandon par les Français de tous les territoires qu'ils possédaient en Amérique du Nord, notamment Québec. Et c'est cet esprit de revanche qui va motiver les Français en 1776, essayer de fragiliser le voisin britannique qui concurrence justement l'impérialisme français un peu partout dans le monde au niveau des empires coloniaux, notamment en Afrique et en Extrême-Orient.
Alors, les victoires s'enchaînent pour les franco-américains et cette alliance jusqu'à cette date du 3 septembre 1783 et le traité de Paris. C'est la victoire finale.
Oui, c'est la victoire finale. Alors, plusieurs points importants sur ce traité de Paris. D'abord, c'est la reconnaissance de l'indépendance et de la souveraineté des États-Unis d'Amérique. C'est aussi à cette occasion-là qu'on va fixer les frontières entre États-Unis, les colonies canadiennes au nord et les possessions espagnoles au sud, notamment en Floride. Et c'est là que sont aussi résolues quelques questions secondaires comme le règlement de la dette vis-à-vis de la métropole ou ce que l'on va faire des loyalistes à la couronne britannique qui étaient restés aux États-Unis pendant le conflit. Mais maintenant, le plus dur reste à faire, il faut construire une république.
Et on finira là-dessus, mais le parallèle d'abord est faisable puisque cette révolte, cette indépendance américaine va inspirer la Révolution française qui aura lieu, comme chacun sait, en 1789.
Oui, tout à fait. C'est ce vent de liberté en fait, qui va être perçu en France comme une source d'inspiration très claire. Et on est en plus dans un contexte où on a beaucoup écouté, on a beaucoup lu les grands philosophes, les Lumières, qui justement... lutter contre l'absolutisme de la monarchie française. Et nous avons un formidable exemple qui fournit au-delà de l'Atlantique lorsque nous voyons en effet que les États-Unis ont osé braver l'autorité du monarque absolu à cette époque-là. Alors, je dis une bêtise, le monarque britannique n'était pas absolu. On était déjà dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle. Mais toujours est-il que les Français, eux aussi, vont aspirer à cet idéal de liberté et vont prendre la même option que ce qu'ont fait les Américains, c'est-à-dire une révolution.
On consacrera d'ailleurs certainement une émission à la Révolution française, il y a tellement de choses à dire. Pour conclure sur ce sujet passionnant, et oui, c'est d'actualité, il semblerait que le 46e président des États-Unis d'Amérique a été élu. On va faire un petit point sur ce qui a été accepté le 17 septembre 1787, c'est-à-dire la Constitution américaine, qui a été acceptée par une convention réunie, là encore, à Philadelphie. Elle s'applique depuis le 4 mars 1789. Elle a été modifiée par 27 amendements. Elle est l'une des plus anciennes constitutions écrites et encore appliquée aujourd'hui, Raphaël.
Oui, alors elle a été rédigée de façon très réfléchie parce que la question était complexe. En 1783, nous nous retrouvons dans un régime qui n'a pas de tête. On ne sait pas comment fonctionner, d'autant plus que les colonies, les 13 colonies, veulent garder leur indépendance. Elles veulent garder leur souveraineté pleine et totale, et les droits de chacun sont garantis à travers un premier Bill of Rights qui est écrit là aussi pour les États-Unis, inspiré de celui qui a été rédigé en Pennsylvanie, où il est dit que tous les hommes sont également libres et indépendants, ils possèdent un nombre inhérent de droits dont personne ne peut les priver. Donc il va falloir trouver une solution pour créer une nation autour de cette idée-là, et c'est ce qui est fait en 1787 lors de la rédaction de la Constitution, où les États se sont finalement mis d'accord pour adopter des règles communes. Et le Congrès décide donc de rédiger cette constitution. Il est aussi décidé que George Washington, donc le général principal de la guerre d'indépendance qui a mené les États des 13 colonies à la victoire, devient le premier président des États-Unis d'Amérique. Cette constitution a été conçue de façon à ce que tous les États aient un statut d'égalité, que les plus petits, comme le Delaware, le Rhode Island ou le New Hampshire, ne soient pas écrasés par les plus gros, tels que la Virginie, la Géorgie ou les deux Carolines. Et la question, comment on fait, va poser problème. Et finalement, cette égalité entre États, elle est garantie par la Constitution, à travers la représentativité de ces différents États dans le Congrès. Le Congrès américain est divisé ainsi en deux chambres différentes. D'une part, vous avez la Chambre des représentants, qui dispose d'un nombre d'élus qui est proportionnel à la population. Ce sont des élus qui le sont pour 2 ans. Et de l'autre côté, vous avez le Sénat, et c'est lui qui garantit l'égalité entre les États, puisque nous avons systématiquement 2 sénateurs par État, quelle que soit la population ou la superficie de cet État-là. Et ces sénateurs-là sont élus pour 6 ans. Et ce Congrès, c'est lui qui va disposer de l'ensemble du pouvoir législatif, donc le pouvoir de faire les lois, avec certaines compétences qui lui sont proprement attachées. On peut citer par exemple le fait que ce soit ce Congrès qui décide de la perception des impôts ou de la frappe de la monnaie, qui est un droit régalien. Ça, c'est plutôt des compétences qui sont réservées à la Chambre des représentants. Et d'autre part, vous avez le Sénat qui va plutôt avoir des prérogatives sur tout ce qui concerne la politique extérieure. Et c'est aussi eux qui vont faire les lois. Le président, lui, de son côté, détient l'ensemble du pouvoir exécutif et n'est pas, surtout pas nommé par le Congrès. Et il est élu par la population au suffrage indirect, de sorte à ce qu'il n'y ait pas un mélange entre les pouvoirs et donc un exercice possible de la tyrannie. Et là, je me raccroche à Montesquieu, qui est justement une lumière française et qui a lui aussi fortement influencé la Constitution américaine et plus tard, hein, nous le verrons aussi, la Constitution française.
Les grands électeurs, comme on les appelle, c'est vrai que pour nous, c'est un petit peu, ça nous dépasse un peu, hein, ce système de vote aux États-Unis.
Oui, c'est vrai que parce que nous, en France, nous avons fait le choix de donner, lors de la Constitution de la Ve République, beaucoup plus de pouvoir, une grande prérogative, à notre président de la République, et nous les lisons donc au suffrage universel direct. Et ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis, où on choisit d'avoir les grands électeurs, et c'est ensuite ces grands électeurs qui vont voter pour le président des États-Unis.
Nous, le peuple des États-Unis, en vue de former une union plus parfaite, d'établir la justice, d'assurer la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer la prospérité générale et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre prospérité, nous ordonnons et établissons la Constitution pour les États-Unis d'Amérique.